de pouvoir voir aujourd'hui un couple des jeunes que nous aimons beaucoup, qui n'est pas en Belgique, Lauriane et Jonathan. Ils se sont mariés cet été. Oh, mais moi, le temps passe, hein. Je sais plus calculer le temps. Ils se sont mariés cette année, dans le coin où ils se trouvent, c'est-à-dire du côté de Guebwiller. Non, c'était pas à Guebwiller, c'est à Célestat que vous êtes mariés en France, hein. Donc, ils travaillent, j'ai des trous de mémoire maintenant avec les noms. Mathieu, arrête de rire, ça t'arrivera, ton tour viendra, t'inquiète pas. Voilà. Et donc, nous sommes très heureux de les avoir avec nous et bienvenue parmi nous. Nous sommes très contents d'être que vous soyez là aussi avec nous. Ça n'exclut pas que nous sommes très contents de vous avoir tous, hein. Tous ceux qui sont là, tant bien la première fois que les autres fois. Donc, c'est un sujet de joie pour nous tous, hein. Voilà. Alors, j'aimerais que nous puissions parler un tout petit peu du sujet qui nous concerne depuis un petit temps. Le thème de servir mon église locale. Aujourd'hui, je vais prêcher, mais ça sera d'une autre manière que d'habitude. Ça sera plutôt avec des schémas, ça sera plutôt plus pour actualiser un peu tout ce que nous savons. Mais n'oublions pas une chose. C'est quoi une église? À quoi sert une église? Pourquoi Jésus a-t-il laissé une église? Qui sommes-nous? Nous, chrétiens, lorsque nous disons qu'on croit en Jésus-Christ, lorsqu'on se dit que, voilà, nous avons donné notre vie à Christ, qu'est-ce que tout cela veut dire? Quel est le but de Dieu? Quelle est la finalité finale? Finalement, à quoi ça sert tout ça? Et c'est pas plus simple de rester, peut-être, non chrétien, de ne pas trop fréquenter ces gens bizarres qui, au lieu d'aller dans le bois, dans la forêt, au lieu d'aller pêcher, d'aller regarder les missions sportives ou d'aller regarder des matchs les dimanches, qu'est-ce qu'ils font? Ils se rassemblent dans des lieux pareils et on sait même pas très bien qu'est-ce qu'ils font. Et puis ils font un truc bizarre avec le sang et le corps. Qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? Et c'est intéressant peut-être de pouvoir, à travers ce thème, actualiser un peu ce que nous sommes et pourquoi nous sommes là. Alors c'est un peu aussi le thème, c'est la raison pour laquelle nous voulons aussi un peu partir de ce thème. Bien sûr, certains d'entre vous qui ont quand même un peu la bouteille théologique ou doctrinale, ou je sais pas comment on va appeler ça, vont certainement s'accrocher à quelque chose, vont se retrouver là-dedans, vont pouvoir se dire « Ah, mais ça, je sais, etc. » Mais c'est bien de pouvoir actualiser cette chose. Nous avons tous besoin de la présence de Dieu. Nous allons d'abord commencer par prier, laisser tous entre les mains de Dieu avant d'aller plus loin dans le message. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'elle nous sanctifie. Merci parce qu'elle nous met à part. Merci parce qu'elle nous emmène à vivre la différence entre un croyant et un non-croyant, entre un chrétien et un non-chrétien. Merci parce qu'elle nous rapproche de toi. Elle nous fait entrer dans ton intimité. Elle nous fait découvrir qui nous sommes et qui tu es, pourquoi nous sommes là. Elle nous fait aussi découvrir comment nous devons agir et qu'est-ce que nous devons faire. Alors, s'il te plaît, encore ce matin, éclaire-nous par ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre chantier. Éclaire-nous par cette parole dans nos vies et que cette parole laisse des marques, des traces. Dans le nom de Jésus, nous te le demandons ainsi. Amen. Alors, j'ai emmené un petit schéma, comme je vous ai dit, et on va commencer par ce schéma-là. Christophe, merci pour ta collaboration. Alors, vous allez voir tout ce qu'on a dit et à partir de ça, on va continuer parce que le but est de parler un peu de comment nous fonctionnons en tant qu'Église. Quelle est la structure de l'Église? Comment fonctionne l'Église? Tu peux le mettre franchement? Le schéma d'abord, schéma 1. Voilà, je me suis débrouillé. Oh non, ça c'est le schéma. Je me suis débrouillé, je ne suis pas très fort en la matière, mais félicitez-moi quand même. J'ai quand même trouvé... Tu ne ferais pas plus grand que ça? Ah, voilà, par exemple, c'est quand même un peu, parce que je sais que il y a des yeux comme moi qui ne voient pas bien, bien tout à fait. Alors, servir mon église locale, première question, qui peut servir dans l'église locale? J'ai dit que c'est tout chrétien. Alors, il faut définir ce que c'est qu'un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, c'est pas quelqu'un qui a la tradition chrétienne, qui a de la sympathie pour les chrétiens. Un chrétien, c'est tout enfant de Dieu. Enfant de Dieu, ça veut dire personne qui est née de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire avoir, par la foi, compris ce que Jésus a fait à la croix. Il est mort à la croix pour nos péchés, pour mes péchés à titre personnel. Que là, sur la croix, il a pris mes fautes. C'était moi qui devais être condamné et c'est lui qui est mort. Croire cela, croire que s'il n'avait pas fait cela, mon destin à moi, c'est l'enfer. C'est la condamnation éternelle. Mais il a pris sur lui pour que la relation entre Dieu et moi soit restaurée, que je puisse être enfin en paix avec Dieu. Donc, je suis une personne justifiée, c'est-à-dire déclarée juste devant Dieu, simplement parce que j'ai cru dans l'œuvre de Jésus-Christ. J'ai cru que Jésus, en mourant sur la croix, il me sauve. Et grâce à lui, Dieu me déclare juste. Alors, la particularité de tout chrétien, c'est que nous sommes à la fois des enfants de Dieu et nous sommes aussi des ouvriers au service du Christ, au service du Seigneur. C'est ce que nous sommes, les deux en même temps. J'ai évoqué l'idée d'une carte d'identité et une carte professionnelle. Tout chrétien au service de Dieu doit avoir des qualités requises, certaines qualités. On ne sert pas Dieu n'importe comment. Il y a des qualités à développer en tant que serviteur de Dieu. Parmi ces qualités, il y a la fidélité. Tout chrétien au service de Dieu doit être fidèle. Il doit être bon. Ici, quand on parle de bon serviteur, ce n'est pas seulement l'idée de quelqu'un qui agit avec bonté, qui est miséricordieux, qui comprend son travail, qui le fait d'une manière, je veux dire, fraternelle, humaine. Non, c'est pas seulement ça. C'est un bon serviteur aussi dans l'idée qu'il travaille bien. Il est sérieux. Il blague pas. Il fait pas de son travail quelque chose de n'importe quoi. Il travaille vraiment. J'avais dit aussi que un serviteur de Dieu doit être humble. À l'étude biblique mardi passé, nous avions parlé un peu de l'humilité. Et nous avons dit justement une des choses qui est quand même importante dans l'humilité, c'est quoi? C'est que l'humilité, c'est aussi le fait de prendre la charge sur moi d'arranger les choses, de faire en sorte que les choses se passent bien, même si ça va me coûter de l'humiliation. Même si ça va me coûter de la souffrance. Un exemple simple, je suis dans une relation de travail avec quelqu'un qui est insupportable, qui vit pas bien, qui me rend la vie difficile. L'humilité consistera à faire en sorte que je m'arrange pour que mon comportement, ma façon d'être favorise quand même un bon climat de travail, bien que je prends beaucoup sur moi. Être humble, c'est donner de la valeur à l'autre. Ça ne veut pas dire se laisser écraser. Ça ne veut pas dire devenir rien du tout. Ça ne veut pas dire devenir une carpette pour les gens. Mais ça veut dire choisir, chaque fois que je le peux, de faire en sorte que même s'il m'en coûte l'humiliation, que les choses se passent bien. Les femmes le font souvent avec leur mari. Elles prennent beaucoup sur elles. Les hommes aussi. Mais bon, je ne sais pas toujours jusqu'à quel point. Bon, ça, je ne vais pas les faire disputer les hommes et les femmes aujourd'hui chez eux, hein. L'humilité, c'est cette valeur que Dieu recherche chez tout chrétien. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il élève, il fait grâce aux humbles. L'humilité est une valeur que Dieu recherche, mais c'est une valeur qui nous manque cruellement. Parce que tous, nous sommes habités par l'orgueil. Tous, on est habités par ce sentiment que je puis par moi-même. J'ai des capacités que je dois. Et on ne supporte. Vous savez qu'en Europe, on est arrivé même au point tel que les gens ne veulent même pas qu'on les aide. Parce que ça blesse leur orgueil. Ça leur montre qu'ils ne sont rien du tout. Pourquoi tu vas m'aider? Quand tu m'aides, ça veut dire que je ne suis rien. Je ne suis pas capable. Non, je suis capable, alors ne m'aide pas. En conséquence, on refuse parfois de vendre certains services pour ne pas devoir recevoir les services en retour. Je connais une dame qui disait toujours, ne donne pas des cadeaux. Ne reçois pas les cadeaux des autres, parce que tu vas être obligé de donner aussi les cadeaux. Alors ne reçois pas, refuse. Nous sommes habités par l'orgueil. Et c'est à cause de ça que nous avons des comportements de ce genre. Fidélité, bonté, humilité, mais aussi un serviteur doit être prêt à souffrir. Mes amis, nous croyons qu'être chrétien, ça veut dire la vie belle. J'ai plus de souffrance. D'ailleurs, un certain évangile prêche ça, n'est-ce pas ? Une manière de présenter l'évangile dit, venez à Christ, vous n'aurez plus de problèmes, vous n'aurez plus de maladies, vous n'aurez plus de soucis, vous serez, tout ce que vous avez rêvé, vous allez avoir. Est-ce que c'est vrai ça? Toute l'histoire du christianisme, depuis le premier siècle jusqu'à nos jours, est remplie des millions et des millions de martyrs. Des gens qu'on a tués sur le chemin, parfois pour rien du tout. Vous savez qu'au temps de Jésus, vous connaissez cette phrase quand Jésus dit que si on vous donne, on vous tend si on vous frappe sur la joue gauche, tendez l'autre joue. Vous connaissez toute cette phrase. Jésus dit quoi? Plus loin, pas dans le même texte. Il dit, si l'on vous impose de faire 1000, c'est-à-dire 1000 pas, faites-en 2000. Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que c'était la loi. La loi romaine, à l'époque, disait ceci, que les colonisés, un soldat, avait le droit de réquisitionner n'importe quel colonisé. C'est-à-dire n'importe quel juif. Hein. Donc, il attrape, il a un fardeau, il dit, toi, allez, viens ici, prends mon fardeau, allez, on y va. Toi, tu peux réclamer quand t'as compté 1000. Quand t'es arrivé à 1000, pas du chef. Non. Mais là, ça suffit, je te rends ton fardeau. Mais essayer de faire ça avec un militaire armé, à mon avis, rien que la vue de son arme, ça vous décourage de dire quoi que ce soit. Mais Jésus dit, eh ben, on vous impose 1000, faites-en 2000. Parce qu'il est dans une autre philosophie. La souffrance est quelque chose qui est au cœur même de la vie chrétienne. Il faut accepter la souffrance. Et il faut vivre dans la souffrance. Ce qui nous rend aujourd'hui faibles spirituellement, c'est la peur de souffrir. D'ailleurs, les hommes d'aujourd'hui sont plus faibles que les hommes d'il y a un peu plus longtemps. Pourquoi? Parce que on est trop gâtés. Moindre bobo, on soigne. Moindre problème, on console. Nos enfants pleurent. Tout de suite, on a en horreur la souffrance. Les gens ne sont plus patients aujourd'hui. Parce que patienter, c'est un peu souffrir, non? Vous croyez pas? Les jeunes gens aujourd'hui, ils savent qu'ils vont se marier, mais pourquoi ne pas avoir un petit copain avant? Parce que, quoi? Attendre? Jusqu'à quel âge? 20 ans? C'est trop! J'ai quoi? 12 ans? Mais pourquoi pas commencer? Je vais souffrir si j'attends trop longtemps. Quoi? Il y a un cadeau, mais donne-le-moi tout de suite. C'est toujours tout de suite. Même le commerce nous connaît ça. La publicité te dit toujours, la promotion, elle commence de tel jour à tel jour. Vous savez pourquoi? Pour que vous courez vite. Hein? Non. Parce que si on vous dit que la promo, elle est là pendant 2 ans, vous n'allez pas quand même aller le lendemain. Hein? Vous avez vu dernièrement, là, au Japon, lorsqu'on a eu le Nintendo, non pas le Nintendo, le, la PlayStation, enfin, quand la PlayStation 4 est sortie, on a annoncé que ça devait être vendu à partir de, d'un certain jour déterminé. Eh bien, à minuit pile, il y avait déjà une foule incroyable qui était déjà là pour acheter la Nintendo, parce qu'il y avait une promotion là-dessus. Bien sûr, je le dis comme ça en rigolant, mais si on met un iPhone aujourd'hui, iPhone 8 s'il sort et qu'on le met à 300 €, je crois que vous me trouverez parmi les gens qui courent vite pour l'attraper. Les gens ne veulent plus souffrir. Un chrétien doit apprendre à souffrir. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un monde où on ne fait pas des cadeaux aux chrétiens. Nous sommes dans un monde qui s'organise. Je le dis, je pèse mes mots. Hein. Je pèse mes mots dans ce que je dis. Nous sommes dans un monde qui s'organise à éradiquer la pensée chrétienne. Si vous ne me croyez pas, tant pis pour vous. Mais nous sommes dans un monde qui tout doucement s'organise à se dire comment on va faire pour éliminer complètement la pensée chrétienne et ce Dieu chrétien-là. Aujourd'hui, en Belgique, ça se voit. Vous savez que j'ai entendu quelque chose qui m'a horrifié. Au niveau de la constitution belge, on veut instaurer le principe de la laïcité. Mais c'est pas de la laïcité gentille, hein. C'est pas la laïcité qui dit que, voilà, on peut croire ou ne pas croire, on a le droit de pratiquer une religion, ne pas le pratiquer. C'est pas cette laïcité-là, hein. C'est une laïcité qui va imposer une pensée unique. Une pensée dans laquelle Dieu est éloigné, est écarté. C'est vers ça que nous allons. Et si nous n'apprenons pas à endurer la souffrance aujourd'hui, demain, quand les persécutions commenceront, c'est nous les premiers qui allons abandonner la foi. Alors, vous remarquerez que j'ai dit tout chrétien au service de Dieu, et j'ai mis, doit être fidèle. Et j'ai mis fidèle en gras. Pour dire que, finalement, tous ces éléments que je viens de citer, eh ben, ça peut se résumer avec le mot fidèle. Être fidèle, c'est tout ça en même temps. C'est être engagé, être totalement engagé, sans condition, sans calculer les conséquences, sans réfléchir au poids de ça me coûte. Vous voyez, c'est comme quand on se marie. Je vais être fidèle à ma femme, ça veut dire que même si je trouve une femme plus belle que ma femme, enfin, si ça existe, pardon, ça n'existe pas. Je tiens pas, je suis pour la paix des ménages. Même si je trouvais une femme qui pourrait à mes yeux sans être plus belle que ma femme, je suis fidèle, ça veut dire que cette femme-là, je la regarde pas. Ah, tu as une qui est plus belle que ma femme à moi. Tu as parfaitement raison. Même si c'est le cas, quoi qu'il m'en coûte, c'est ma femme d'abord. Et quel que soit le caractère de ma femme, quel que soit ce qu'elle est, quel que soit les problèmes qu'elle va me crier, suis fidèle, ça veut dire que quoi qu'il en coûte, je continue avec elle. Vous voyez, la fidélité, c'est quelque chose de super important. Et le chrétien doit apprendre à être fidèle. Mais regardez nos faiblesses. Je dis ça et je dis ça rapidement. Regardez nos faiblesses. Sommes-nous fidèles à Dieu? Oui. Combien de fois par jour? Combien de fois par heure, combien d'heures par jour sommes-nous fidèles à Dieu? On est fidèle à notre sou. On est fidèle à notre boulot. On est fidèle à nos engagements sociaux. On est fidèle à la politique. On est fidèle à ceci, à cela. Est-ce qu'on est fidèle à Dieu? Pas tout le temps. Juste un tout petit peu. Or, une femme mariée, un homme marié, il doit s'en souvenir 24 heures sur 24. Enfin, je pense que c'est le cas. Hein, Mathieu, c'est pas ça? C'est ça, hein? Voilà. Parce que, attention, Christy est là, il entend. Hein. Nous devons apprendre à savoir que la fidélité, c'est un engagement permanent. Et nous devons, dans la fidélité, il y a cette notion d'honorer la personne envers laquelle on est engagé, de lui faire honneur, de faire en sorte que cette personne soit toujours mise en valeur. Est-ce que c'est le cas dans nos vies pour Dieu? Dieu est-il mis en valeur dans nos vies? À travers notre façon de parler, à travers notre façon de, de penser, à travers nos façons d'agir, dans les choix de nos choses que nous faisons. Est-ce que Dieu est-il mis en valeur? Est-ce que, à travers notre vie, on peut dire, waouh, cet homme, cette femme-là, c'est vraiment quelqu'un qui aime Dieu. Remarque. Donc, peut servir tout chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu, mais il faut préciser une chose, c'est que le mot serviteur signifie esclave, c'est-à-dire une personne qui n'a pas de droit et qui est entièrement dévouée à son maître. J'ai longuement expliqué cela aussi, mais considérez l'idée de l'esclave. Alors, un détail que j'ai apporté seulement, c'est que d'une manière générale, tout chrétien peut, pour servir dans l'église locale, doit d'abord se faire baptiser et ensuite devenir membre de l'église. Ça fait partie de notre façon de dire, voilà, cette église locale-là, j'y suis, je m'établis là. Ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas, qui sont baptisés, mais qui ne sont pas membres d'une église, ne sont pas les bienvenus. Hein. Les amis, ne croyez pas que vous n'êtes pas les bienvenus. Vous êtes les bienvenus chaque fois que vous voulez, quand vous voulez, comme vous voulez, aucun problème pour nous. Vous êtes les bienvenus, même si vous êtes chrétien, peut-être pas baptisé, vous êtes les bienvenus, il n'y a pas de souci. Mais quand je dois comprendre ce que ça veut dire m'engager dans une église locale, je dois pouvoir comprendre qu'il y a cette dimension du baptême et il y a cette dimension de devenir membre. Mais cependant, l'église est ouverte. L'église a une porte largement ouverte à n'importe qui. Quelqu'un peut venir pendant des années dans une église sans en être membre. Ce n'est pas un problème. Seulement, il doit pouvoir réfléchir par rapport à son engagement personnel. Parce que quand je m'engage en tant que membre dans une église, ça veut dire que si les finances vont mal dans l'église, ça me concerne. Si le bâtiment, il manque des choses dans le bâtiment, ça me concerne. Si, je ne sais pas moi, il faut décider d'un nouveau pasteur, ça me concerne. S'il faut changer quelque chose dans la dénomination, dans la théologie, etc., ça me concerne. Ça ne concerne pas celui qui n'est pas membre. Alors nous continuons donc, tu peux relever encore. Maintenant on passe à la deuxième question, c'est là que j'étais, donc le deuxième groupe, c'est quels sont les services au sein d'une église. J'avais fait deux remarques, les deux remarques concernaient la vision de Dieu. Comment Dieu regarde le service dans l'église? Dieu regarde le service dans l'église de deux manières. Première manière, Dieu donne des serviteurs. Éphésiens chapitre 4, du verset 11 au verset 16, on va le lire d'ailleurs. Dieu donne des serviteurs. Moi, ça me frappe, hein. Il dit pas, il donne des ministères. Il dit pas, il donne des ministères. Il dit des serviteurs. Il donne pas un concept, il donne des personnes. Et ça, c'est une première chose qui me frappe. Et vous remarquez que le but pour lequel Dieu donne ses serviteurs, j'ai essayé d'écrire ça dans un langage peut-être plus compréhensible, parce que dans le texte, c'est pas toujours évident, c'est pour construire les fondations de son église locale. Imaginez que Dieu est comme un entrepreneur, c'est celui qui construit, et puis il engage des maçons en leur disant, vous allez me faire les fondations de cette maison. C'est vous qui allez creuser et faire que la maison puisse avoir une fondation. Ça, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ils sont là pour donner les bases. Vous verrez que l'apôtre Paul dit souvent cela d'ailleurs, en tant qu'apôtre, dans son apostolat, il le dit souvent, « Moi, j'ai posé les fondements. » Il n'y a qu'un seul fondement, c'est Christ. Et moi, j'ai posé ce fondement-là. Maintenant, les autres vont arroser, vont travailler, etc. Mais moi, j'ai posé les bases. Dieu donne donc un groupe de serviteurs qui sont là pour donner les bases à la vie de l'Église. Deuxième chose, c'est que le rôle de ce serviteur-là consiste à former. Donc, vous voyez, j'ai souligné le mot « donne » et le mot « former ». Donner parce que ça ne vient pas de nous. Personne ne peut s'auto-déclarer pasteur, prophète, apôtre. C'est un peu l'habitude de certaines personnes de s'auto-proclamer apôtre ou prophète ou pasteur, etc. Mais on voit que dans la Bible, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne à une église, à une communauté locale, à un pasteur et tout ce qu'il lui faut comme comme personne pour construire les fondations de l'église. Deuxième chose donc, le rôle de ces serviteurs consiste à former les chrétiens. Alors, j'ai trouvé dans ma version à moi quelque chose d'intéressant qui disait que former aux tâches du service en vue de l'édification du corps du Christ. Donc le but, c'est de former les chrétiens pour les différentes tâches dans le cadre de la construction du corps du Christ. Et ça, c'est quelque chose que les responsables ont comme rôle à faire, rôle à jouer. Leur rôle, c'est de permettre que chaque chrétien acquiert la maturité en tant que chrétien, devienne mûr spirituellement, mais il soit capable de pouvoir servir de manière à ce que le corps du Christ soit construit. L'édification a été un mot sur lequel on avait beaucoup insisté. Alors, peut-être aujourd'hui, c'est le moment où on va peut-être voir un peu comment fonctionne une église locale comme la nôtre, par exemple. Mais je voudrais quand même qu'on relise d'abord ce texte de Éphésiens chapitre 4 pour pouvoir voir un peu quelle est la vision de Dieu duquel j'ai dégagé ces choses. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ. Le but est là, c'est que tous les chrétiens, avec la formation qu'ils reçoivent, grandissent et deviennent mûrs spirituellement. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné, formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même. Ça vous paraît clair? Non. Dites non. Ça vous paraît clair, ça? Dites non. Ah, vous n'avez pas envie de dire non. Vous pensez que c'est clair quand même. Ça va? Bon, allez, je vais prendre ça dans la version français courant. Peut-être que là, vous allez plus encore voir un peu plus. Français courant, c'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes. Des uns, il a fait des apôtres, des autres des prophètes, d'autres encore des évangélistes, des pasteurs ou des enseignants. Déjà, vous voyez, docteur, c'est enseignant. C'est ainsi qu'il a rendu le peuple de Dieu apte à accomplir son service pour faire croître le corps du Christ. Okay? De cette façon, nous parviendrons tous ensemble à l'unité de la foi, dans la connaissance du Fils de Dieu. Nous deviendrons des adultes dont le développement atteindra la statue parfaite du Christ. Alors nous ne serons plus des enfants emportés par les vagues ou le tourbillon de toutes sortes de doctrines, trompés par des hommes recourant à la ruse pour entraîner les autres dans l'erreur. Au contraire, en proclamant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers Christ qui est la tête. C'est grâce à lui que le corps forme un tout solide, bien uni par les articulations dont il est pourvu. Ainsi, lorsque chaque partie fonctionne comme elle doit, le corps entier grandit et se développe par l'amour. Je disais que c'est très long à expliquer, mais j'aimerais que vous gardiez cette idée que, un, c'est Dieu qui donne des serviteurs et que ce n'est pas des hommes qui doivent s'improviser, mais qu'il y a une hiérarchie. Ça veut dire qu'il y a un modèle d'autorité qui est là derrière. Rien à faire, La manière dont fonctionne Dieu dans sa vision de service, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie sous-entend que tout le monde est égal et de cette égalité, nous votons les personnes qui nous représentent au-dessus de nous, qui sont à notre service, que nous pouvons révoquer. Enfin bon, quoique démocratiquement, quand on élit quand même des parlementaires, on ne sait pas les virer quand on veut. Hein. Enfin bon, bref, mais théoriquement, c'est ça. Mais il ne s'agit pas de la démocratie. C'est Dieu. C'est de la théocratie. C'est Dieu qui contrôle tout. C'est lui qui donne les serviteurs. C'est lui qui donne la ligne de conduite. C'est lui qui donne la route à suivre. Mais, d'une part, donc il faut bien sûr de la coopération et de la coopération entre les chrétiens. Il y a nécessité qu'alors ceux que les responsables sont en train de former coopèrent à cette formation-là, puissent dire oui, qu'ils puissent aussi accepter d'aller dans ce sens-là. C'est important. Ils doivent aussi collaborer à cela. Mais bien sûr, quand je parle de modèle qui n'est pas démocratique, je parle bien sûr que même si c'est hiérarchique, ça veut dire que les responsables ne doivent pas non plus tomber dans l'autoritarisme, c'est-à-dire devenir des dictateurs qui, parce qu'ils ont le rôle de former, ils sont là pour dicter leur volonté. Le modèle parfait de ce fonctionnement, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 41 à 47. Je vais juste lire, vous allez voir que ce modèle dont je viens de parler, il y a les apôtres qui sont là pour donner les fondations à la vie de l'Église, et il y a toute une dynamique qui se met en place où les chrétiens grandissent. Eh bien, nous voyons ça dans Actes chapitre 2. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, voyez, pour être dans l'Église. En ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Là, c'est l'Église. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans les prières. Qui est-ce qui leur apprenait cela? C'était les apôtres. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu. Ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, voyez la conséquence, chaque jour la fidélité, chaque jour tous ensemble assidus au temple. Aujourd'hui la fidélité est grave. Hein? Est-ce que les gens sont-ils fidèles à nos réunions? Est-ce que les gens sont-ils là tout le temps? Aujourd'hui, c'est difficile de compter sur les gens. Ils sont là quand ils en ont envie. Ils sont là quand le match qui passe à la télé n'est pas très important. Ou l'émission, ou j'en sais rien, moi. Ou quand ils sont de mauvaise humeur. Mais ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Nous voulons voir notre Église grandir, fonctionnons sur ce modèle-là. Comment fonctionnent nos églises locales? On va maintenant rentrer dans du concret d'aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir le faire en quelques minutes. Tu veux bien mettre le... Voilà. Ah. Voilà, ceci est un organigramme. Un organigramme qui n'est pas l'organigramme de notre église, mais l'organigramme modèle de nos églises. Tu peux baisser encore pour voir le titre? Voilà, organigramme modèle du fonctionnement des églises locales de l'AEPEB, c'est notre communauté d'églises, Association des églises protestantes évangéliques de Belgique. C'est notre communauté d'églises. Et donc ça, c'est l'organigramme modèle, c'est que vous trouverez dans toutes nos 25 églises de Belgique. Première chose, vous remarquerez, j'ai mis d'abord Jésus-Christ. Pourquoi j'ai mis Jésus-Christ d'abord? Parce que c'est Jésus, le chef de l'Église. C'est lui, le propriétaire de l'Église. Je vais même plus loin. C'est pas que le chef au sens où il a été nommé là. Non, c'est le propriétaire de l'Église. L'Église lui appartient. C'est lui de qui tout le reste se soumet. Et c'est rassurant de savoir que l'Église, ce n'est pas un individu ou un groupe d'individus qui en est le chef. Il y a un chef au-dessus, c'est Jésus-Christ. Il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Mon, c'est un pronom possessif pour dire, ça lui appartient. Jésus-Christ est le chef de l'église. Dans l'organigramme, et l'organigramme veut dire ce que ça veut dire, hein, ça veut dire les liens qu'il y a entre les structures, et parfois aussi on voit une structure hiérarchique en mode aussi d'autorité en quelque sorte. Premièrement, vous voyez, il y a pasteur et ancien. Alors, nous avons la direction de l'église qui est assurée par les anciens et le pasteur. Nous verrons qui sont les anciens et le pasteur, on verra ça en détail. Mais eux ont le rôle de diriger l'église. Diriger l'église, ça veut dire quoi? Ça veut dire décider dans les aspects spirituels, à la fois le culte, à la fois les enseignements, à la fois l'encadrement des membres, le suivi des gens. Tout ce travail spirituel, c'est le pasteur et les anciens qui le font. Ils ont aussi le rôle de prendre soin, évidemment, du peuple de Dieu et d'être aussi l'interface avec l'extérieur. C'est eux qui entrent en contact au nom de la communauté, au nom de l'Église, vers l'extérieur. C'est eux aussi qui, évidemment, décident au nom de la vision spirituel du travail, qui décide évidemment de la vie quotidienne de l'Église, de sorte qu'ils prennent des décisions sur l'ensemble de tout ce qui doit se passer dans l'Église. Sont-ils des dictateurs? Non. Pour une simple raison. Le mode de fonctionnement des pasteurs et anciens dans notre communauté, c'est un mode qu'on appelle un mode collégial. Ils se réunissent ensemble et en principe, dans nos églises, il faut minimum deux anciens, plus un pasteur, et ils se réunissent et décident ensemble. Quand on parle de collégialité, ça veut dire qu'il faut que la voix de tous soit entendue. Quand il y a des accords, le point est reporté. Il faut que tout le monde soit d'accord. On privilégie l'unanimité, c'est-à-dire tout le monde d'accord. Et quand il y a des points de position, on reporte les questions pour plus tard. Les anciens, ils sont évidemment trouvés dans l'Église. On va voir les qualifications des anciens plus tard, c'est pas aujourd'hui. Et une fois qu'ils sont nommés, ils sont en charge, selon le timing qui est défini dans chaque Église. Ça, c'est chaque Église qui définit. Le pasteur, lui, il est choisi aussi par l'Assemblée générale des membres, et il exerce sa fonction en tant qu'ancien aussi au milieu de l'Église. Fonction de direction, principalement, mais deuxième fonction importante, c'est la fonction qui est la fonction de gestion en général, de tout ce qui est les tâches, finalement, qui sont aussi importantes. Elles sont peut-être secondaires en apparence, mais qui sont aussi importantes pour l'Église, c'est tout le travail des diacres. Les diacres sont là pour gérer la vie de l'Église dans le sens de toutes les tâches matérielles, dans toutes les tâches concrètes. C'est une façon de pouvoir alléger la charge spirituelle du travail des anciens et des diacres, des anciens et des pasteurs. Alors, en général, dans nos traditions d'Église, les diacres, les anciens et les diacres, se réunissent au sein de ce qu'on appelle le conseil d'Église. Quand il y a des soucis, quand il y a des problèmes, quand l'équipe n'est pas assez complète au niveau des anciens, on crée ce qu'on appelle le conseil d'Église. Et le conseil d'Église, c'est la réunion de tous ces des responsables à la fois au niveau de la direction de l'Église et au niveau de la gestion des tâches matérielles, pour pouvoir alors décider de l'ensemble de la vie. C'est eux qui assurent la gestion courante de la vie de l'Église. Les pasteurs anciens et diacres s'assurent du quotidien de la vie de l'Église. À côté du travail de direction, de gestion, il y a un travail aussi de gestion du bâtiment, principalement, qui se fait avec l'ASBL. C'est pour ça que vous allez voir ASBL Église, avec une structure légale, normale, que la loi impose, à savoir, pour tous les ASBL, un conseil d'administration qui gère le quotidien, qui gère les besoins quotidiens, et l'Assemblée générale qui, une fois par an, on peut décider aussi deux fois, peu importe, mais qui alors entérine en fait les choix et les décisions que du conseil d'administration. C'est important parce que historiquement, nous appartenons à une histoire d'église qui a toujours choisi d'être des églises libres. C'est-à-dire que nos églises ont choisi de ne pas dépendre de l'État. En Belgique, vous avez deux sortes d'églises. Les églises qui font partie, qui ont sollicité l'État pour pouvoir obtenir des bâtiments. Tout l'ensemble des églises comme l'Église protestante unie de Belgique, les PUB. Et les églises qui ont choisi de se débrouiller tout seul. Et ces églises qui ont choisi de se débrouiller tout seul ont été longtemps appelées églises libres. Et ce sont des églises qui se sont battues pour construire eux-mêmes leur propre bâtiment, payer le pasteur, ou en tout cas s'occuper de tous les besoins, en général, de l'église. Et ces églises, nous faisons partie de cette communauté d'églises. De sorte que, par exemple, ce bâtiment n'a pas été, l'argent n'a pas été donné par l'État. Ce sont les membres qui ont cotisé, qui se sont débrouillés pour avoir ce bâtiment. Et légalement parlant, on était obligé, donc, comme toutes les autres églises de notre association, nous étions obligés d'avoir une structure d'ASBL. Et donc l'ASBL de cette église s'occupe notamment de la gestion de ce bâtiment. Alors, il y a des différents départements, des cellules, des comités, des services qui sont en fait des cadres d'activité dans lesquels nous permettons des choses qui puissent se faire, par exemple pour des groupes, les enfants par exemple, les jeunes par exemple, parfois les dames par exemple. Et il y a aussi des départements utiles aussi pour, par exemple, l'enseignement, les études bibliques, par exemple. Il y a des cellules aussi qui sont utiles, par exemple, pour la propriété du bâtiment, le nettoyage, d'autres besoins. Tout ça fait partie de quelque chose qui appartient aussi dans la vie de l'Église. Vous remarquerez donc que dans la vie quotidienne, c'est les pasteurs et anciens qui dirigent l'Église. Ils sont assistés des diacres et il y a toute une équipe de responsables qui s'occupent des diverses activités qui sont changeantes en fonction des époques, en fonction des circonstances. C'est pas toujours les mêmes activités qu'on met en place, mais qui sont les activités qu'on décide. Alors, comment est-ce que ces activités viennent en place? C'est souvent donc l'équipe des pasteurs et anciens, parfois aussi avec les diacres ensemble, qui décident de la mise en place d'un département, de mettre en route un département et de le faire fonctionner. Parce que, voilà, on en a besoin. Mais si on n'en a pas besoin, il y a des départements qu'on peut aussi supprimer. Alors, nous avons donc une gestion quotidienne, mais il y a une gestion aussi, une fois par an, nous avons ce qu'on appelle l'Assemblée générale des membres. Alors, c'est là que je vous ai dit que tout chrétien, tout serviteur dans une église s'engage en qualité de membre, s'il veut agir, influer, faire avancer les choses dans son église locale. Eh bien, l'Assemblée générale, c'est l'Assemblée générale de tous les membres. Et les membres se réunissent, l'Assemblée générale se réunit une fois par an et évalue l'ensemble des activités. L'Assemblée générale est souveraine. Elle est légalement parlant, si aujourd'hui les autorités nous réclamaient des papiers pour présenter, les documents de l'Assemblée générale sont beaucoup plus importants que les documents de la gestion courante. Et l'Assemblée générale donc a pour rôle d'entériner ce qui se passe, de changer les choses ou de les maintenir, de discuter des questions importantes, fondamentales, mais qui peuvent pas faire l'objet d'une discussion dans la vie quotidienne. Et ça, l'Assemblée générale sert à cela. C'est un organe donc très important qui peut avoir de l'influence. C'est pour ça que vous avez remarqué que j'ai mis en rapport de subordination, vous remarquez que pasteur et diacre, et donc tout le reste, est soumis à l'Assemblée générale. C'est l'organe le plus important parce qu'il peut influer sur la manière dont le pasteur et ancien, les diacres et l'ensemble des responsables d'église peuvent fonctionner. L'Assemblée générale est donc souveraine et elle est importante. Je ne sais pas si vous avez un peu plus compris l'église avec ça, mais c'était utile quand même de pouvoir comprendre cette manière de fonctionner pour que vous sachiez un peu comment les choses sont, quels sont les rapports qui existent au sein de l'église. Prochainement, on va rentrer dans les détails pour savoir qui sont les pasteurs, qui sont les anciens, comment ça fonctionne, comment on les élit, enfin, comment on les nomme, en quelque sorte, dans nos communautés, quelles sont leurs charges, etc. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'essaierai d'être peut-être court pour que, bon, on donne l'essentiel. Si vous voulez des détails, je peux vous recommander des livres sur le travail des anciens, des pasteurs. Bon, vous pouvez lire aussi. Il y a notamment un livre très remarquable. Si vous avez envie d'acheter un livre, c'est par exemple un livre de John MacArthur qui s'appelle « Les anciens, quand dit la Bible ». C'est vraiment quelque chose de très, très, très bien fait. Voilà. Je voulais juste, aujourd'hui, introduire donc la vie de notre Église quotidiennement et voir un peu comment sont les choses à notre niveau en tant qu'Église. Comme ça, vous savez que, tiens, quand vous voyez le pasteur, ah, ok, cela, il se charge de diriger l'Église. Ah, tel fait ceci, tel fait cela. Vous voyez un peu les liens qui existent entre les gens. Maintenant, on va aller plus loin parce qu'après, on va devoir voir un peu comment on arrive à être, comment on rentre dans ces fonctions-là, comment comprendre ces fonctions-là au sein de l'Église. Voilà, je vais m'arrêter là. Excuse-moi, j'ai pris encore du temps. Mais tu as l'habitude, hein. Prions. Seigneur, nous voulons que nous puissions construire ton Église et que les choses qui sont importantes à savoir et qui vont pouvoir être là comme des bases à partir desquelles on va fonctionner, permet que ces choses soient assimilées tout doucement pour que, ensemble, comme dans ce texte il est écrit, que nous ayons une unité dans la connaissance de ton Fils, mais dans la connaissance aussi des rapports qui existent dans le fonctionnement, dans le service de l'Église. Et qu'ainsi, cette unité nous emmène à travailler dans la paix, à travailler aussi surtout dans la bonne direction, et qu'ainsi nous puissions glorifier ton nom à travers notre engagement. Seigneur, enseigne-nous encore et conduis-nous au nom de Jésus. Amen.